de Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 29e magazine de l'Instant Sport avec une actualité chargée ce week-end et des résultats pas vraiment au rendez-vous. Le basket a débuté sa saison ce week-end, gros match du capitaine du BCM qui a littéralement porté son équipe contre Lunel et ça tombe bien, il va pouvoir nous en parler. Salut Aurélien.
Salut, bonjour à tous.
Des débuts compliqués.
Compliqué, ouais. On repart sur les bases de la saison précédente, donc on s'est dit que c'était une bonne entame de saison, ouais.
Ouais, on va commencer par ça d'ailleurs, l'instant sport. Mais après, il faut dire qu'il vous manque votre joker défensif, Luc Respon.
Exactement. Il est en train de faire une grosse préparation physique en Nouvelle-Zélande, donc il va revenir comme il
affûté.
Affûté, exactement, et il va nous apporter beaucoup.
Peut-être qu'on l'aura la semaine prochaine dans l'émission. Peut-être.
Ouais, je crois qu'il rentre ce week-end. On verra s'il a récupéré du décalage horaire.
Voilà. Patrick est absent aussi aujourd'hui. Il va être triste de ne pas pouvoir nous parler du match de l'OM d'hier soir. Mais on a Laurent qui va pouvoir nous parler de Zlatan. Salut Laurent.
Salut, bonjour à tout le monde, aux auditeurs et surtout aux auditrices.
Mais tu n'as pas vu le match hier?
Non, j'ai pas vu le match hier.
Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi?
Non, parce que hier, j'ai préféré regarder Virginie Efira sur une autre chaîne et c'était sympa.
Oui, ça devient n'importe quoi.
Non, mais on peut pas faire du sport, regarder du sport tout le week-end non plus. J'ai fait foot, handball, et du foot sur le terrain aussi. Donc, maintenant, il faut lâcher, quoi.
D'ailleurs, après cette énorme défaite contre Monroda, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end?
On s'est bien repris, ouais. 3-0.
Contre qui?
Contre le Malzieux.
Le Malzieux, ouais. Pourtant, difficile, grosse équipe au Malzieux.
Non, mais par contre, ça a été un sale week-end pour le sport lausérien. On en reviendra plus tard.
Ouais.
Tristouné là, l'automne attaque bien mal.
Voilà, exactement. Un nouveau spécialiste incorpore l'Instant Sport avec Corentin, spécialiste volley. Salut.
Bonjour à tous.
D'ailleurs, la semaine prochaine, on recevra Amal, l'entraîneur des filles du MVL. Et aujourd'hui, il va être question d'un sport que l'on évoque que rarement dans l'Instant Sport, le tennis de table, plus communément appelé le ping-pong, avec Julien Rocoplan, le président de l'éveil mondois tennis de table. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, merci d'être présent avec nous dans cette émission, d'autant que j'ai entendu dire que Laurent était très à l'aise dans ce sport.
J'étais.
Oui. C'est ce que j'ai dit. Tu étais.
Oui. Donc, du coup, je ne suis plus.
Et ouais, tu. Balle-siège, tu étais un top player à Balle-siège, non? C'est ça?
Voilà, du coup, que du quartier de Balle-siège, hein, même pas du village.
Et ouais, mais c'est déjà bien. On va commencer à parler de basket, Aurélien.
On commence par les bonnes choses.
Ouais, vous n'allez pas nous faire la même saison que l'an dernier, quand même.
Non, j'espère pas. Même si le premier match a été très compliqué, j'imagine que tu vas te faire un plaisir pour me chambrer de donner le score.
Exactement, le BCM perd à Lunel 63-31. Vous êtes arrivé à la moitié quand même.
Voilà, exactement. Donc,
dont 10 points de ta part, donc un tiers des points de ton équipe.
Oui, tout à fait, 10 points de ma part et 10 points aussi à noter de l'autre intérieur, Victor, qui est un jeune de 17 ans qui faisait son premier match en région. Donc, il a confirmé tous les espoirs qu'on plaçait en lui. Donc, secteur intérieur, très présent sur le match.
20 points de joueurs, donc 11 points de ceux, enfin 10 points de ceux qui restent, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Un petit peu compliqué au niveau de la circulation de balles. Une équipe de Lunel très présente en défense, autant dans la qualité de jeu que physiquement. C'est une équipe qui joue beaucoup sur le physique et effectivement on a eu du mal à faire circuler la balle et à trouver des bonnes positions pour nos shooters, ce qui explique un petit peu le piètre résultat au niveau offensif.
Au niveau offensif extérieur, ouais. Il faut dire que cette équipe de Lunel s'est renforcée et vise la montée aussi, hein. Vous n'êtes pas allé chez des branquignoles, c'était un premier match difficile pour vous.
Exactement. Lunel qui s'est renforcé à l'intersaison, qui a récupéré le meilleur joueur d'Aigues-Mortes, le meilleur joueur de Mogio pour se renforcer. Et clairement, c'est une équipe qui affiche ses ambitions et qui veut jouer la montée. Donc une équipe à surveiller et qui est très très costaud. Ouais.
Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, en plus, vous êtes parti à 8, mais au final, vous avez fini à 6.
On est parti à 8. On a eu quelques péripéties en début de match, puisque on a notre meneur titulaire qui, au bout de 2 minutes, est sorti car il était malade. Voilà, pour ceux qui sont à table, et pour info, il est allé vomir pendant toute la durée du match, donc bon appétit. Mmh. Et donc notre meneur remplaçant qui est rentré au bout de 4 minutes, qui allait percuter une chaise dans le public au niveau de la tête, et donc qui s'est évanoui, qui a dû être transféré à la Péronie. Donc voilà, à la fin du premier quart-temps,
on lui passe coucou d'ailleurs.
ouais, c'est, y a plus de peur que de mal au final. Les pompiers avaient peur qu'il y ait un traumatisme crânien, mais au final, rien de tout ça, donc il s'est bien remis. Mais voilà, à la fin du premier quart-temps, on n'avait plus nos meneurs, donc obligé de s'adapter et de modifier un petit peu les positions et les tactiques de jeu.
Ce qui explique le résultat, certainement, donc il ne faut pas dramatiser. Alors, du coup.
Non, il ne faut pas dramatiser, il y a eu de bonnes choses quand même dans le match de notre part, que ce soit au niveau défensif, aussi en attaque. Comme je disais, je parlais de Victor tout à l'heure, un jeune qui jouait son premier match en région, mais on avait 3 autres jeunes aussi qui jouaient leur premier match en région, donc ils ont répondu présent aussi, donc c'est de bon augure pour la suite tout de même. Ouais.
Voilà, plutôt positif. Alors faut préciser, cette année vous êtes en région comme l'an dernier, mais 2 poules de région fusionnées, donc le niveau est un peu plus élevé.
C'est ça, on rencontre des équipes qui l'an dernier étaient à un niveau supérieur, et comme tu viens de dire, il y a eu fusion de 2 niveaux de région, donc on se retrouve contre des équipes qui jouaient l'an dernier à un niveau au-dessus de nous. Voilà, donc ça va, contre ces équipes-là, ça risque d'être compliqué. Je pense que ça va être un petit peu un championnat à 2 vitesses. Effectivement, il y a une grosse différence de niveau entre les équipes. La moitié des équipes qui vont clairement jouer la montée, et puis l'autre moitié qui vont se battre pour glaner quelques victoires par-ci par-là.
Ok, ben on vous suivra avec attention.
Et le prochain match alors, c'est quoi ?
Voilà.
Mais prochain match à domicile, donc premier match à domicile de la saison, donc j'espère qu'il y aura du monde pour venir nous soutenir. C'est samedi soir à 20h30 au gymnase de Saint-Privat contre Alès.
Ok, mais sans Luc Respond.
Sans Luc Respond toujours, qui je crois à ce moment-là, il atterrira juste à Paris. Donc j'espère qu'il prendra des infos dès son arrivée sur le sol français.
Ouais, ça va vous faire perdre du public, parce que lui, il amène des filles hein, dans le gymnase.
Ouais, c'est ça. On connaît ici tous Luc et son charme ravageur. Donc c'est vrai que quand il joue, on a du public qui est présent.
Alors, il amène pas de points ni de rebonds, mais il amène des filles.
Voilà, des pom-com girls, c'est pas mal.
Voilà. Ok, volleyball, l'équipe 1 continue les bons résultats avec une victoire à domicile contre Alès, 3-7-1. Dans les autres résultats, Puy-Gouzon 3, Narbonne 2, Arles 3, Saint-Égrève 0, Touactuc, donc Toulouse 3, Saint-Étienne 0. Au classement, égalité entre Mende et Touactuc, 9 points. Arles 6 points, Saint-Étienne 6 points, Puy-Gouzon 5, Narbonne 1, Saint-Égrève 0, Alès 0. Voilà, l'objectif c'était la montée directe. Corentin, 2 matchs de victoire, ça se passe plutôt bien.
Plutôt bien, oui, effectivement, pour le Mende Volley Lozère. Moi, c'est vrai que ce week-end, j'ai pas assisté au match, mais pour en avoir parlé un petit peu avec Anthony Velay, un des joueurs de l'équipe entre Devers le samedi soir au commerce, c'était, oui, effectivement, une belle victoire. L'attaque de cette saison a plutôt bien démarré pour eux. Ils sont premiers ex aequo, si je dis pas de bêtises.
C'est
du
ça,
coup.
Ouais.
Voilà.
Parce que je comprends pas, tu dis qu'ils ont joué 2 matchs, mais ils ont 9 points. Comment ça marche là, au niveau des points là ?
Parce que c'est 3 et demi, allez.
Ouais, 3 voilà. Et demi. Ouais,
non, ouais. J'en sais rien, ils ont peut-être joué 3 matchs ? Non.
A priori.
3 matchs.
3 matchs. Ah oui,
ça veut dire 3 victoires. Ça veut dire 3 victoires.
Bien, Laurent, c'est bien.
Ça suit quand même.
Ça suit.
Je languis de voir le match contre Toulouse, du coup, Tuc-Toc.
Tuc-Toc, ouais, c'est ça.
Enfin, le coup est déjà fait avec le troisième Arles qui est déjà à 3 points.
Ils ont une victoire.
Et voilà, et ça c'est assez positif parce qu'Arles est quand même une équipe qui va nous poser des problèmes. Ils sont nombreux, c'est quand même National 2, c'est quand même un sacré niveau. Ça commence à envoyer du pâté, comme ils disent là-bas. Mmh. Et c'est vrai que l'objectif, donc du coup, de monter en première division, enfin en première division en National 1, et a été prononcé à plusieurs reprises quand même au niveau des dirigeants ainsi que des joueurs. C'est un projet qu'ils sont en train de monter tous ensemble et derrière c'est se maintenir bien sûr en National 1 pour après permettre à la réserve qui est actuellement en pré-national, donc c'est quand même un bon niveau aussi, pour permettre à la réserve de monter ensuite plus tard en National 3. Donc ouais. Ça c'est un des projets aussi, le second projet on va dire du club. D'arriver à un stade où on aurait deux nationales.
Voilà, justement, Mende qui a gagné contre Saint-Gély, donc la pré-nationale, hein. Ouais. 3-7-1, qui est au milieu du classement, à 4 points, parce qu'il y a l'ASBA Montpellier qui a 9 points quand même. Ils sont déjà à 5 points en 3 matchs du premier.
Voilà, oui, après, il y a eu quelques petites différences aussi dans cette équipe de réserve, puisque moi, quand j'y jouais il y a quelques temps, on était avec un entraîneur qui s'appelait Maxime Meunier, qui est resté, si je ne dis pas de bêtises, une dizaine d'années au moins, donc qui a contribué énormément à l'avancée du club ainsi que de cette équipe, surtout puisque c'est grâce à lui et à notre collectif de l'époque qu'on a pu monter pour la réserve jusqu'en pré-national. Et derrière, depuis cette année seulement, il y a eu un changement d'entraîneur.
C'est qui maintenant, ouais.
Et j'ai oublié son nom, c'est Antoine, ça me reviendra pas.
On va l'appeler Antoine, c'est cool.
Antoine, c'est pas mal
Tony.
Déjà.
Ouais, Tony.
Donc voilà, quelques changements, il y a un petit temps d'adaptation à refaire aussi, des nouveaux joueurs, si je ne dis pas de bêtises non plus, il y a eu trois recrues on va dire dans la réserve, donc c'est pareil, c'est un club qui est un petit peu en expansion et surtout axé jeunesse, donc ça c'était forcément les attentes du club. Poussé avec le col, le centre de formation qu'on a en Lozère.
On va en reparler du col avec le tennis de table aussi. C'est comme pour l'équipe 1, c'est première phase de poule, après on garde ses points, on monte dans les playoffs. Comment ça se passe en pré-national, tu t'en souviens ou pas?
La pré-national, oui, on a fait un système, c'est pas aussi officiel on va dire que ça, mais on fait un système de play-offs à la fin où on récupère les quatre meilleures équipes du championnat pour après faire ce qu'on appelle les finales,
oui, voilà,
pour vraiment
savoir qui c'est qui monte
exactement, ouais. Mais c'est vrai que je me souviens plus si c'est les deux premiers ou
oui, mais de toute façon ça change en plus chaque année,
oui, c'est en fonction du nombre d'équipes etc. Ouais. Oui, c'est assez particulier aussi.
Julien, tu suis quoi comme sport autre que le tennis de table en Lozère?
Alors je suis un petit peu le rugby parce que mon fils en fait un petit peu, la FL parce que voilà, c'est un peu le sport sport roi, voilà, sur Mende, et puis le volley, le hand. Je suis désolé pour le basket.
Maintenant, tu le suivras.
Voilà, exactement.
Mais c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler quand même du basket. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de pub, je dirais même, de communication autour de ce sport, parce que c'est un sport que voilà, moi j'adore, je regarde beaucoup la NBA, etc.
C'est vrai, mais c'est pour ça que nous on en parle chaque lundi. En plus, ils sont très drôles à voir jouer. C'est pour ça, n'hésitez pas à venir.
C'est assez sympa à voir, ouais.
C'est assez sympa à voir. Il y a plein de paniers. Le MVL qui est descendu l'an dernier, qui va essayer de remonter cette année. Ton avis, toi, sur ce club-là, sur l'équipe 1, notamment des garçons?
Après, alors, je sais qu'il y a eu pas mal de changements en courte saison.
Ouais.
Donc voilà. Après, je pense qu'il leur faudra un petit temps d'adaptation. J'ai pas trop regardé la poule, savoir ce que ça donnait vraiment et au niveau des autres, parce que voilà, on sait qu'ils vont finir dans les quatre premiers, donc ils vont jouer normalement les play-offs. Donc après, il faut voir avec les autres équipes des autres poules, savoir s'ils ont chance de pouvoir monter à la National 1. Mais je pense qu'ils ont fait un recrutement qui était judicieux. Donc.
Oui, ça va se jouer avec toi actuque. Mais après, voilà, on change de poule, les poules se mélangent, on garde ses propres résultats. Donc c'est toujours compliqué de savoir.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas se planter pour le match contre Toac, enfin, Toulouse, on va dire. Et Arles qui risque de jouer les playoffs. Comme tu gardes les points, donc du coup c'est un peu étrange ce fonctionnement. Enfin bref, maintenant on le sait, il faut pas se gourer. On a des petits droits à l'erreur, mais contre des équipes bas de tableau, c'est bête à dire, mais c'est comme ça.
Ouais, exactement.
C'est ce qui a manqué l'année dernière pour se maintenir en National 1.
Exactement.
Ouais, c'est pour ça aussi qu'effectivement tous les matchs sont importants, notamment le prochain, ils vont jouer à Saint-Étienne. Saint-Étienne qui est aussi à milieu de tableau, donc je pense qu'ils vont jouer la troisième ou quatrième place pour la montée en play-off. Donc ça va être aussi un match important à gagner pour garder les points dans la phase suivante.
Voilà, Saint-Étienne qui est quatrième avec 6 points, donc c'est ce que tu dis. Ouais. Les féminines, les régionales féminines que nous recevrons la semaine prochaine ont gagné contre Béziers 3-7-2, son premier ex aequo avec Béziers justement et l'AT PTT Montpellier avec 4 points. En rugby, donc on en disait un mot tout à l'heure, le RCML qui perd d'un petit point 11-10 à Montréal Malepère. Pour Montréal, un essai de pénalité. Et pour le RCML, un essai de Viala à la 16e, une transformation et une pénalité. Donc ça, c'est vraiment joué à rien. À noter un carton jaune de Kylian Arnal à la 2e minute. Donc ça, c'est pas mal. Hop, on rentre de 2 minutes, carton jaune. On le connaît, notre cher ami. Dans les autres résultats, Vinassan gagne Toche-Corbière, Cruzy Saint-Chinian gagne Murviel-Tézan et Nissan-Colombier gagne Trèves au classement. Mende reste en tête avec 6 points, égalité avec Nissan-Colombier 6 points, Vinassan 5, Cruzy-Saint-Chinian 5, Montréal 4 points. Donc une défaite un peu rageante, mais
le bonus défensif.
Le bonus défensif et il reste en tête, Laurent.
Ouais, c'est bien. Donc on voit déjà qu'il n'y a aucune des d'autres équipes qui ont fait le sans faute. Donc du coup, ça permet que cette petite erreur n'a pas de préjudice sur le classement. Donc du coup, on souhaite bien évidemment à Mende de confirmer ce bon début de saison, on va pas dire très bon, ce bon début de saison à son prochain match et puis de continuer dans cette dynamique et de se faire plaisir.
Oui, Mende qui démarre bien cette année comme l'an dernier, mais on va espérer. Ils ont encore eu des blessés ce match-là. Chaque saison, ils ont beaucoup de blessés. C'est vraiment le point noir de cette équipe. Donc, on va espérer qu'ils aient un effectif assez important qui se rétablisse pour pouvoir jouer cette montée. Handball pré-national, deuxième journée ce dimanche à Agde, sans leur porte-bonheur, Laurent, Mende s'incline à Agde 35-20 avec déjà 9 buts de retard à la mi-temps. Laurent, t'as eu des échos de ce match?
Ouais, alors j'ai eu des échos. Il y a eu moins 15 à la fin du match. Bon, on va dire que c'est une fessée. Bon, les joueurs s'attendaient à un match compliqué, c'est sûr. Peut-être pas autant, mais ça a été un match, c'est ce que j'ai compris, dans une ambiance pas terrible, donc il y avait beaucoup d'animosité, même dans les tribunes, partout. Donc c'est un tout petit guet-apens que les joueurs de Mende n'ont pas réussi à gagner. Mais c'est pas grave, ils restent encore au chaud, de 4-5e position, je sais plus. Il va falloir se reprendre évidemment ce week-end contre Marguerite, qui a gagné ses 2 matchs de championnat. Donc on en est qu'à la 2e journée, il ne faut pas s'alarmer. C'est un faux pas, donc c'est qu'il y a des circonstances un petit peu atténuantes
Ce match. Agde joue la montée, clairement. C'était un des matchs entre les deux équipes qui vont essayer de monter, Mende et Agde, au vu de leur effectif. Donc c'est un peu dommage de perdre là. Bon, la saison est encore longue.
Ah, c'est très long, ouais.
Voilà, ça ne veut rien dire. Au niveau des joueurs de Mende... ouais, personne n'est sorti du lot, j'imagine, en marquant 20 buts et surtout en en encaissant 35.
Non, bon, mais c'est a priori un match pas réussi. Il faut voir les erreurs qui ont été commises et puis en tirer les conséquences et évidemment se remettre dans le bon bain ce week-end.
Ouais. Aurélien.
Ouais, effectivement, le meilleur buteur de Mende, c'est Robin Bartolone qui a marqué 5 buts. Donc c'est vrai que c'est pas exceptionnel en soi. En même temps, quand on est à 21-10 à la mi-temps, qu'on finit à 35-20, c'est vrai que c'est dur de se remettre dans le bain en deuxième mi-temps. C'était le premier vrai test quand même pour le club de Mende. C'est raté. J'espère qu'ils vont se reprendre le week-end prochain parce que là, si
ça sera un autre vrai test
effectivement. Et s'ils finissent ces deux matchs avec 2 défaites, ça peut mettre le doute pour la suite de la compétition.
D'accord. Ils jouent donc à domicile. On connaît l'horaire ou pas? Non, ça par contre, on ne sait pas. On va essayer de se renseigner.
En général, c'est le samedi soir à 20h30 à La Vernède.
La Vernède. Vous, c'est quand le basket?
Le basket, c'est samedi soir à 20h30 aussi. Au gymnase de Saint-Privat.
Ouais, eh ben il va falloir faire des choix là.
Un vrai test aussi.
Un vrai test contre Alès.
Ouais. Les féminines qu'on a reçues la semaine dernière, Laurent, on fait quoi ce week-end?
Les féminines ont perdu de 4 points ce week-end, donc contre Bellegarde. Donc on savait que Bellegarde était une bonne équipe. Donc en fait, bon, on peut redire ce qui s'est passé, comme on a dit la semaine dernière avec la coach et la joueuse. Début de match très très compliqué. Donc il a fallu courir après le score tout le match. Malgré tout, à 10 minutes de la fin du match, le MGC égalise et passe devant d'un but, je crois. Et puis patatrac, il y a un carton, enfin pas un carton jaune, une 2 minutes qui ont un petit peu tout bouleversé. Les joueuses ont eu du mal à se retrouver. Et puis du coup, on est passé de plus 1 à moins 2, quoi. Et puis ça a été fini. Bon, il faut dire qu'à Bellegarde, il y a deux joueuses qui sont quand même qui sortent du lot. Qui a un niveau pour jouer au-dessus, évidemment. Et puis, elles se sont réveillées à ce moment-là, à 10 minutes de la fin. Les tirs faisaient tous mouche. Enfin, bon, ça a été une fin, je vais dire entre guillemets, merdique. Comme le début du match aussi, puisqu'il a été raté. Mais j'ai trouvé quand même que les filles se sont bien battues dans l'ensemble. Il manque encore un petit peu une cohésion. Dû au changement de génération, des joueuses qui sont parties, des nouvelles qui sont arrivées. Donc il y avait 4 ou 5 joueuses qui n'avaient jamais joué ensemble ou juste les 2 premiers matchs de la saison. Donc c'est évident qu'il faut qu'elles trouvent des automatismes. Et je pense que quand les automatismes seront là, il y aura une très bonne équipe.
On sait que ouais, c'est les automatismes, les tactiques sont super importantes en handball. Voilà. Le volley, c'est pareil, vous travaillez différentes tactiques à mettre en place suivant l'évolution du score.
Oui, ben forcément, le jour J, au moment du match, on s'adapte bien entendu par rapport au score. Mais il y a surtout un gros travail avec l'entraîneur Constant Choisy. Avant chaque match, il y a une grosse préparation, c'est-à-dire qu'on étudie l'équipe adverse par le biais de vidéos. On a ils s'échangent entre entraîneurs des stats de match en fonction des joueurs contre qui on va tomber. On sait très bien en fait avant chaque match de qui on doit se méfier, sur quoi on peut justement se servir pour essayer de basculer de l'avantage du match de notre côté, etc. Il y a vraiment un gros travail de préparation avant chaque match. Ouais.
Laurent ?
Oui, je voulais rajouter qu'il y a l'apport dans le staff des féminines de Fabien Marty, un des joueurs de l'équipe senior masculine qui au premier match d'ailleurs avait marqué beaucoup de buts, on en avait parlé ici. Et donc il vient donner un coup de main à Yvelise qu'on recevait la semaine dernière. Et a priori, les joueuses ont apprécié son tact, les replacements qu'il fait, il les encourage, donc c'est aussi une bonne nouvelle pour la suite de la saison.
Gros travail de combinaison basket aussi.
Oui, c'est très important effectivement de s'adapter à l'adversaire, de travailler les systèmes qu'on voit à l'entraînement. Effectivement, il y a un côté tactique qui est aussi très présent au basket. Je voulais juste rajouter sur l'AN féminin. Je remarque que le seul lundi où je n'étais pas là la semaine dernière, vous invitez des filles. Donc je voulais vous remercier les gars quand même. C'est très sympa de penser à moi.
Exactement. Et ouais, c'est comme bizarre, ça. C'est... Toi, t'as pas le droit aux filles. Voilà, c'est comme Luc.
Si c'est la semaine prochaine, ce sera une fille par contre. Ouais.
En tennis de table, c'est pareil. Est-ce qu'on essaye de mettre son jeu en avant ou on connaît le jeu de l'adversaire et on va s'adapter à ce qu'il va nous proposer?
Alors en général, on essaye, selon la typologie du joueur, on va essayer de mettre d'abord son jeu en avant. Après, voilà, quand on tombe sur un joueur beaucoup plus fort ou avec plus d'expérience, ben voilà, on essaye de le contrecarrer, voilà, de changer un petit peu son jeu pour s'adapter à son système. Voilà, après on a la chance d'avoir un entraîneur qui fait travailler tous les types de jeux à ses joueurs, donc voilà, tous les joueurs du club qui jouent au niveau régional sont à même de pouvoir analyser tous les différents coups des adversaires.
D'accord, mais ça après vous le voyez que sur place, sur le moment. Exactement, vous ne les connaissez pas avant les adversaires.
Alors on commence à se connaître un petit peu au niveau régional, mais c'est vrai que bon, il y a toujours le risque de voilà, il y a La saison débute, il y a le mercato, il y a eu pas mal de changements au niveau d'un certain club. Donc on a toujours le risque d'avoir des nouveaux joueurs qui viennent soit de la région ou d'une autre région. Après, les joueurs progressent aussi. Donc un joueur qui pouvait être moyen l'année précédente peut totalement exploser sur cette année. Donc voilà, ça peut des fois faire des surprises. Mais dans l'ensemble, on arrive quand même à connaître un petit peu les jeux de chacun de nos adversaires.
Ok. Football, on passe au football et à la DHR ce dimanche au stade Pinoton. Marvejols s'incline contre la réserve du FC7 de Butin malgré un but de Diabaté à la 25e. Alors une très mauvaise entame de match avec des buts de 7 à la 5e et à la 10e minute. Marvejols qui ensuite a marqué un but mais n'a pas réussi à en marquer plus. C'est toujours compliqué de jouer contre les équipes réserves de CFA notamment.
Ben oui, parce que c'est bon, généralement des jeunes joueurs qui s'entraînent toute la semaine avec des joueurs aguerris et puis donc du coup qui progressent évidemment plus vite. Bon, cette défaite n'enlève pas non plus le très bon début de saison de Marvejols. C'est bon, ils peuvent pas toujours tout gagner non plus. Ils arrivent et ils découvrent cette division. Bon, rien d'alarmant pour Marvejols.
Oui, oui. Marvejols qui jouera contre Badarou en Coupe Lozère. Voilà, à noter, c'est tombé. Un beau match en perspective. D' ailleurs, Badarou a gagné 2-3 au Gros du Roi. 3-2 plutôt. Et remonte au classement 6e avec 9 points, mais à 1 point seulement du premier. Donc on parlait de l'apprentissage qui serait certainement difficile pour Badarou. Mais là, pour l'instant, rien à dire, tout se passe bien. Le NL en division d'honneur Auvergne perd chez la réserve 10h 2-1. Donc au classement, le club de l'ENL dégringole à la 6e place, mais à 2 points du premier. Donc c'est pareil, c'est un peu pareil. Sur ce match de Butin, une info, Laurent?
Une info, donc a priori, une équipe 10 heures, comme on vient de le dire, pour Marvejols, qui jouait contre une réserve de CFA. Là, c'est pareil pour Iser. Une équipe difficile à jouer, donc l'ENL s'y est cassé les dents. Mais c'est pas grave, c'était à l'extérieur. Bon, ils sont bien calés à la 6e place, tu l'as dit, à 2 points du premier Vichy. Donc rien d'alarmant. Bon, certes, ils sont à 3 points du 11e, mais bon, aucun souci pour l'ENL.
Et une info sur le buteur de l'ENL.
Une info, c'est notre ami Vivien qui a marqué son 3e but de la saison. Donc je m'étais un peu moqué, je disais que ce 3e but arriverait pour Noël. Donc a priori, les fêtes de fin d'année. Sont avancés pour lui. Donc je lui lance l'invitation par la radio aujourd'hui. Donc il viendra un de ces quatre.
Voilà, on lui avait dit qu'on l'accepterait qu'au bout de 3 buts s'il y est déjà. Mmh. Donc la semaine prochaine, on a Amal. Si dans 2 semaines il veut venir, ben, on l'invitera avec plaisir qu'il contacte Laurent. Ouais. Et comme ça, on bloque dans 2 semaines. La réserve de l'AFL obtient un match nul à domicile, 2 buts partout contre l'US du Trèfle.
Alors tu dis la réserve de l'AFL obtient un match nul, c'est plutôt l'US de Trèfle qui a obtenu voilà, un match nul.
J'attendais que tu me
puisqu'à la 90e minute, l'arbitre a offert un penalty au Gardois. Donc voilà, match nul, très frustrant puisque quand tu te fais égaliser en fin de match, c'est rageant. L'équipe était menée à la mi-temps 1-0 et puis avait retrouvé les ressources nécessaires pour égaliser et puis prendre l'avantage. Par Morgan Jean-Louis. Et puis, bon, voilà, un penalty discutable, certainement discuté aussi, mais bon, comme l'arbitre a toujours raison, c'était un penalty qui embarrasse un peu, quoi, puisque c'était un bon début de saison de l'AFL. Là, du coup, avec une victoire et deux nuls, ça rentre un petit peu plus dans le milieu de classement, enfin mon troisième. Il va falloir se reprendre ce week-end. L'équipe réserve joue en Coupe Lozère, puisque tu parlais de Coupe Lozère, au Chastel. Je pense que le coach Maxime Tessier va mettre une équipe, la même équipe, va faire une équipe pour retrouver un petit peu le goût de la victoire dès ce week-end, quoi.
Ok, ouais, parce qu'en plus l'équipe de l'US du Trèfle,
je sous-estime pas le Chastel, mais oui. Donc il va jouer à fond évidemment cette rencontre pour respecter le.
C'est vrai qu'il faut rappeler que l'équipe de l'AFL est descendue, qu'on attend à ce qu'elle remonte de suite, c'est l'objectif.
Bah, qu'elle joue au moins le haut tableau, donc c'est encore le cas puisque.
Voilà, troisième à 8 points, deuxième Val de 16, 8 points, Aiguemortes 2, 10 points. Donc on est à 2 points du premier, ça va. C'est sûr que cet accro contre l'US du Trèfle qui est 10e, qui n'a que 3 points, c'est.
Ouais, et puis c'est surtout que c'est à domicile, donc c'est. Voilà. C'était au chapitre, donc tous les ingrédients étaient réunis pour gagner ce match. Malheureusement, bon voilà, petite faute à fin de match, gros effet quoi.
Ok, l'équipe 1 de l'AFL perd à domicile 1-0 contre Perpignan, but à la 72e minute, donc un petit événement. L'an dernier, Mende, la FL qui n'avait pas perdu à domicile de la saison. Donc,
qui, même mieux, avait tout gagné.
Qui avait tout gagné. Donc là, on doit remonter. Ça doit faire plus d'un an et demi que la FL n'avait pas perdu à domicile en championnat.
Oui, alors bon, en gros, voilà, ça doit être ça. C'est une anecdote. Bon, c'est, j'espère, des points qui ne vont pas nous manquer en fin de saison. On sait très bien, quand on fait le bilan à la fin, on se dit, rappelle-toi ce match contre Bavernay. J'espère qu'on n'en viendra pas là. Donc du coup maintenant j'ai une top au sein de l'effectif,
c'est bien ça.
Un joueur qu'on appellera Nabil Z qui pour pas dire qui c'est, qui va me faire un point tous les week-ends de son ressenti du match. Donc merci à lui. Donc là en fait en gros il savait très bien que l'AFL allait dominer les débats puisqu'il y a pas eu de ça a été une attaque défense tout le match. Hein. Je crois que Perpignan a tiré deux fois au but, il y en a eu un, voilà. Donc ça a été une attaque défense, l'AFL a eu le ballon tout le match, et puis s'est frotté un bon gardien adverse, et puis bon, il y a eu quelques mauvais choix offensifs qui ont été faits. Voilà, donc c'est une défaite qu'on ne s'attendait pas, puisque bon, Bavernay n'avait pas gagné depuis le début de la saison, était même loin d'avoir beaucoup de points. Et donc voilà, il va falloir réagir tout de suite. On le dit, on l'a dit pour le NL, on l'a dit pour Marvejol, on l'a dit pour tout le monde. Le Hand, ce week-end, match de Coupe de France à Canet. Canet que nous avions battu 2-0, je crois.
C'est ça, à domicile.
À domicile au premier match. Donc premier ça va match, être ouais. Très compliqué parce que
à l'extérieur, c'est
Canet n'a plus perdu, je crois, depuis ce match.
Puisque là, on fait deux partout à Carcassonne.
Voilà, deux partout à Carcassonne. Ils sont devant nous au classement, du coup.
Ouais,
avec donc, ça va être très compliqué d'aller gagner là-bas. Ça sera, à mon avis, un exploit de passer ce tour.
Voilà. Bagnoles, premier, 14 points. Narbonne, FU, 11 points. Perpignan, Canet, 11 points. Latte, 10 points. Mende est 5e avec 9 points.
Et bon, quand on connaît la joie qu'apportent ces parcours de Coupe de France, comme on a pu le rencontrer ces dernières saisons, je suis sûr que les joueurs vont se reprendre et vont mettre les ingrédients nécessaires à la victoire et à passer ce tour. Mmh.
Julien, vous avez suivi les parcours de Coupe de France de l'AFL les Alors, années précédentes
ouais, je les ai suivis quand ils avaient été loin. Alors, le seul petit bémol, c'est que j'étais en déplacement professionnel quand il y avait eu le match contre... c'était Le Havre, il me semble.
Le Havre,
oui. Perdu. Mmh. Voilà, donc j'avais suivi sur le site du Midi Libre, parce que c'était le seul qui retransmettait. Le...
Ah, je ne crois pas, non.
Erreur, mon cher.
Ouais, j'étais pas au courant de 48 FM à l'époque. Donc... Ouais, non, mais voilà, c'était un des rares moyens que j'avais pour... Hein, parce que sur l'équipe, il n'y avait pas d'infos. Avait...
Ouais.
Voilà. Mmh. Ouais, on le commentait en direct avec Laurent.
D'accord.
Ouais, match en intégralité en direct, on fait ça pour la Coupe de France. Quand les
arrive
grosses équipes
arrivent. Septième tour, donc encore.
Ça commence à être intéressant.
Ouais. Donc on espère qu'ils vont continuer encore oui. à monter dans cette Coupe de France pour pouvoir faire des émissions en direct et permettre au public lausérien qui ne peut pas aller au stade de suivre les matchs. Faire,
ouais. C'est ça. Et on se fera des mi-temps instant sport. Qu'on a dit la semaine dernière, tu n'étais pas là pour
parler des... Je l'ai entendu, je vous ai écouté un streaming. Dans
le train.
Donc je vous ai écouté, ça marche très bien le streaming, bon, sauf quand on passe sous les tunnels, mais forcément, mais sinon, ça marche très bien.
Ok, parfait, on vous rappelle 48fm.org, vous pouvez nous écouter en direct de toute la France, voire du monde entier. Il est 1h03, on en parle encore plus que d'habitude. On va faire une pause musicale avant de passer à notre invité et de parler du tennis de table et notamment de l'éveil mandois tennis de table.
With the bird, she shared his love.
Laurent, tu disais,
hein,
l'équipe joue en CFA. Tu parlais, oui, de qui? De Narbonne?
Non, de bientôt de l'AFL, d'ici les quatre prochaines saisons.
D'accord. Oui, juste avant de reprendre avec notre invité, Aurélien, tu as une info?
Oui, je voulais dire, on parlait tout à l'heure de la Coupe de France et de l'équipe de Marvejols qui va recevoir ce week-end l'équipe de Béziers en Coupe de France.
Béziers qui joue à National.
Béziers qui joue à National, effectivement. Et ça va être l'occasion pour les supporters historiques de l'AFL de retrouver sur les pelouses lausériennes Antoine Botorel, qui était le gardien de l'AFL il y a quelques années, qui aujourd'hui joue à Béziers. Donc il va sûrement être du déplacement pour le match de Coupe de France à Marvejols. Voilà.
Ouais, c'est bien de parler des anciens joueurs qui reviennent, tu as raison. Bravo, bonne info.
Antoine, qui était un super gardien, et c'était bien dommage qu'on l'ait perdu à l'époque.
Oui, tout à fait. Ouais.
C'est pas parti du parcours contre Angoulême?
Si, exactement. Ouais, ouais. C'est à l'époque CFA2 de l'éveil Mandois, c'était lui le gardien. Ouais.
Alors, en attendant, on va parler de tennis de table maintenant. Julien Rocoplan, président de l'éveil Mandois Tennis de Table. Toutes vos équipes ont repris ce week-end, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre club, à savoir combien il y a d'équipes, qui évoluent en quelle division?
Alors, on a ce jour 7 équipes, 2 qui évoluent au niveau régional et le 5 autres au niveau départemental. Donc, au niveau départemental, on a une D3, on a 2 D2 et 2 D1.
D'accord. Voilà, donc, et en région, ça fait quoi après?
En régional, donc après, on a une R3, donc c'est ce qui est juste au-dessus de la D1. Après, on n'a pas de R2, on a une R1. Et après, on arrive sur pré-national, national 3, national 2, national 1 et Pro B Pro 1.
Du coup, tu parles de départemental, mais c'est que Lozère?
Que Lozère.
Vous êtes avec un autre département?
Non, que Lozère.
Que Lozère. Donc, il y a, oui, y a beaucoup d'équipes en Lozère, pour qu'il y ait au moins 3 niveaux en Lozère.
Oui, mais il y a 12 clubs sur le département.
Ouais.
Et chaque club a inscrit au moins une équipe. Et voilà, après, il y a des clubs commandes où on a 5 équipes. Saint-Chély en a 3, Marvejols en a 3. Donc voilà, ça fait, après, ça fait du monde.
Le tennis de table se porte bien alors en Lozère?
Tout à fait, oui. C'est vrai que là, ça fait quelques années, ben, en fait, depuis qu'on a un nouveau cadre technique sur le département, depuis 2009, voilà, où on est en plein essor parce qu'on a un cadre qui fait un super boulot. Donc,
on peut donner son nom. Hein,
Lionel Prieur.
Allez, voilà. Lionel Prieur.
Qui l'a recruté dans les autres sports, dans les écoles.
Exactement.
Il paraît qu'il a entendu dans une émission qu'il y avait un crack à Balsillage il y a quelques années. Ouais, il est en train de chercher là.
Ouais.
Vous avez combien de licenciés à Mende?
Alors à ce jour, on est à peu près à 70, sachant qu'on n'a pas encore fini toutes les inscriptions. Donc voilà, après on a... Cette année, on a un petit peu... Alors, tous les ans, on fait des évolutions dans notre club. Donc, il y a 3 ans, on avait monté la section handisport avec le numéro maintenant 3 français, 48e mondial. Là, ça fait...
Qui s'appelle?
François Jules-Jean.
D'accord. 48e mondial, c'est énorme, ça.
Oui, tout à fait, oui. Mm. Ouais, il a fait l'année dernière, il a fait 3 podiums, 2 internationaux et 1 championnat de France. Donc voilà, c'est pareil, il bénéficie des entraînements de Lionel Prieur. Donc voilà, il a des créneaux, il prend des cours individuels pour atteindre ses objectifs, sachant que son rêve est voilà, c'est ça peut être réalisable, ça peut être les Jeux de Tokyo en 2020.
C'est comme en l'handisport, c'est également la Chine, les équipes asiatiques qui trustent les premières places ou pas?
Pas forcément, parce qu'au dernier JO de Londres, oui c'était Londres, voilà, la France a fait 6 médailles.
Ah bien, ouais.
Ouais. Donc non, au niveau français, on se débrouille super bien l'handisport.
D'accord. Ouais. Au même JO en non-handisport, on a rien.
Rien du tout.
Là, c'est les Chinois là.
Ouais, tout à fait. Ouais. Ben, si on prend le tableau mondial, on prend les 3 premiers, c'est 3 Chinois. Il faut arriver à la 5e place pour avoir un Européen. Et dans le top 10, il y a 4 Européens et tout le reste, c'est Asiatique.
Ouais. Comment on peut expliquer c'est culturellement, ils le travaillent plus tôt. Bon, ils sont plus nombreux, donc bon, évidemment, on réussit à avoir plus de bons joueurs. Mais c'est quoi? C'est que c'est vraiment lié à leur culture?
Ouais. Oui, le tennis de table, c'est comme chez nous le foot, en fait. Tout le monde y joue dès tout petit. Ils commencent le tennis de table. Ils font des séances d'entraînement. C'est du 4 heures par jour chez les tout petits. Avec des séances d'entraînement de 1 à 2 heures par jour sans balle. Donc, ils ont juste la raquette. Ils s'entraînent juste à faire les déplacements et les gestes. Bon, la chose qu'en France, on est incapable de faire.
Voilà, ça n'a rien à voir avec le système en France, puisque nous, au contraire, c'est... C'est un des problèmes dans pas mal de sports, comme nous on a connu par exemple ça au volley, quoi. C'est le plus important, justement, comprendre par exemple pour le tennis de table le positionnement, la distance avec la table, la raquette, le placement, et c'est primordial justement pour avoir derrière un bon jeu et être dans les meilleures conditions pour engager chaque balle et pouvoir marquer son point.
Ouais, mais jouer sans balle, c'est chiant, quoi.
Exactement. Et c'est,
allez, on va jouer pendant une heure mais t'as pas de balle. Sous ma gueule. Ça peut pas marcher. L'équipe 1 jouait à Uchaud chez vous, donc c'est le plus haut niveau de la régionale pour espérer monter en pré-national. Il y avait des joueurs de moins pour ce match
Ouais, tout à fait. Alors, on a dû faire face aux absences de Arthur Dvorak, qui s'est blessé, donc qui est le deuxième cadre technique du département. Donc, on a 2 entraîneurs et demi qui interviennent sur le département. Donc, Arthur, c'est le deuxième qui est en cours de formation et qui a eu un petit accident de la route. Donc, voilà, je lui souhaite un bon rétablissement. Arthur, et il manquait également Hervé Lédier, donc c'est la recrue qu'on a eue l'année dernière. C'est un joueur qu'on a été chercher à Montpellier, voilà, qui s'est proposé de venir jouer chez nous, qui a 40 ans, qui a eu un très très haut niveau et qui est pareil, niveau d'entraîneur, il a son diplôme d'état, donc il est BE.
On peut jouer longtemps au tennis de table?
Ah oui, on peut jouer jusqu'à 70, 80, voilà, tant qu'on arrive à tenir debout, qu'on arrive à se baisser pour amasser la balle. On peut jouer.
Ok, on perd pas ses qualités. Ouais. Après, c'est le niveau physique. C'est physique.
Très physique.
Qu'on se rend pas
en fait,
compte.
C'est le sport où on monte le plus vite en cardio.
Ah.
Mm. Bon, là, moi, ce que je me rappelle, c'est surtout la concentration. Oui. Ça demande énormément de concentration. Et donc, c'est ce qui m'a manqué. Non, mais c'est un très beau sport, le ping-pong.
Oui, mais c'est vrai qu'on voit surtout comme un sport de loisir. En France, on a du mal à le voir comme un sport professionnel. Ouais. C'est peut-être le problème aussi, c'est que voilà, c'est vraiment le sport, c'est comme la pétanque où on a l'habitude, il fait beau, c'est l'été, hop, on sort la table ou on sort les boules, et on n'a pas cette dimension encore, je pense. Aurélien,
comment ça se passe dans votre championnat? Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est un championnat qui se fait par équipe.
Oui,
c'est ça. Donc, vous êtes combien par équipe?
Alors, sur en départemental, la D3 et la D2 se jouent à 3, donc 2 équipes de 3. Ouais, voilà. Et au niveau de la D1 et puis au-delà, c'est 4 joueurs. Donc après, chaque joueur fait 3 simples et un double. Donc ça se joue au meilleur des 14, sur 14 parties. Et on va jusqu'au bout des parties. Il n'y a qu'après au niveau national où on s'arrête au score acquis.
C'est-à-dire, on s'arrête au score acquis?
Par exemple, en pro A, pro B, vous avez 4 joueurs, il y a 8 parties à faire. Bon, après, ils font leur composition d'équipe au fur et à mesure des rencontres. Et ils peuvent s'arrêter à 4-0.
Ok.
Voilà.
D'accord. Et tout le monde joue contre tout le monde sur un match? Et non.
Non, justement, c'est là où
comment
il y a...
Comment on fait, on choisit ou c'est tirage au sort?
Alors, il y a une obligation, c'est que le meilleur joueur doit jouer soit en A, pour ceux qui ont la lettre A sur la composition de leur équipe, ou alors en Y pour la composition en WXY. Donc, c'est ce qui fait que les 2 meilleurs joueurs sont obligés de se jouer sur la dernière partie.
D'accord.
Voilà. Oui, mais tu n'es pas obligé de mettre ton meilleur joueur... quand ah oui, meilleur si... joueur adverse.
Et si tu triches,
c'est qui décide qui est le meilleur joueur?
Les classements.
C'est le classement. Ouais. En fait, il y a un classement qui est sorti à chaque phase. Non. Et après, on fait un petit peu ce qu'on veut. Ouais. Et c'est notamment ce qui s'est passé à Ucho, du moins on a, parce qu'on y a été du coup avec deux joueurs titulaires absents et on a dû compenser par des joueurs de l'équipe inférieure. Ouais. Où il y a quand même
il y a un écart.
Il y a un écart entre les deux équipes. C'est pas il faut pas se leurrer dessus. Et le coach a eu une super idée sur sa composition d'équipe, ce qui fait qu'on a un de nos jeunes qui montait de l'équipe inférieure qui a réussi à faire deux perfs. Donc lui, il est classé 10, il gagne des 12, donc ça veut dire qu'il y a 200 points d'écart entre chaque joueur.
Ah ouais.
Donc Florent, il a fait un super entame de match sur un niveau qu'il connaissait pas du tout, parce qu'il avait eu l'habitude de jouer en R3. Là, il débute sur la R1, donc c'est... En R1, par exemple, pour vous donner une idée, on a Perpignan dans notre poule. Perpignan, ils alignent le 800e joueur français. Mmh. Donc voilà, ouais, au niveau régional, on arrive à avoir des très très gros joueurs. Ouais.
Est-ce que vous jouez la montée, là, en fait ? Comment ça se passe ?
Alors,
il faut le dire, là. Tous les auditeurs attendent ça.
Ouais, alors, déjà, il faut savoir qu'il y a 2 ans, on a été monté en deuxième phase parce qu'en fait, au niveau du tennis de table, il y a une première phase, c'est de septembre à décembre. Ouais. Et en fonction du classement que l'on a, soit on peut monter, soit on peut descendre. Donc on a été monté en RU dans deuxième phase il y a 2 ans. Donc on avait fini troisième, on avait réussi à faire des hold-up sur pas mal de matchs. Donc on était vraiment équipe surprise. L'année dernière, en deuxième phase, pareil, on fait première ex aequo, on rate la montée à cause de 2 parties perdues. Voilà, on se retrouve à égalité sur l'ensemble de la saison. Donc un petit peu déçu au niveau des joueurs.
Remobiliser après en perdant ou au contraire.
Pas forcément dur, mais ils étaient un petit peu déçus sur le coup. Il y a eu un match sur le leader qui était leader avec nous où Lionel était malade. Une petite gastro comme nos collègues du basket. Mmh. Donc coué au fond de son lit à pas pouvoir sortir, et notre recrue qui était en cours de déménagement qui pouvait pas venir.
Mmh. Et Laurent qui était pas dispo, donc
voilà, et Laurent était pas là, donc
ouais. J'ai piscine.
Ouais, donc là cette année on a pour le moment on est à 2 victoires, donc ça fait partie des objectifs qu'on s'était fixés en début de saison. On restait raisonnable en disant on jouait le maintien parce que on est dans une poule assez costaud, on a Perpignan donc avec le 800e français. Et puis on a la Vérune qui devait être une équipe assez costaud, mais qui vient de perdre un match là. Donc on peut espérer finir au moins sur le podium. Et si on joue... De la première phase,
ouais.
Et on joue Perpignan sur le dernier match, on les joue par contre là-bas. Sachant qu'ils ont une équipe en prénat qui vise la montée en N3 aussi, donc est-ce qu'ils vont...
Vous les jouez là-bas, mais vous les recevez pas après, non ?
Non.
Ah, c'est... Ouais. Ok.
Après, en deuxième phase, on remet un nouveau calendrier, des nouvelles équipes et... Et compteur à zéro.
C'est un peu étrange, quand même, ouais.
C'est mieux.
Mais tu reçois pas une équipe, tu vas juste chez elle. Si elle est plus forte, tu es doublement désavantagé.
Mais il y a sur d'autres matchs où tu reçois et tu y vas pas aussi.
Ouais.
C'est pareil.
Ouais, ouais. Vous dites qu'il y a le 800e joueur français en face de vous. Vous, le meilleur joueur, il est classé quoi pour Canton ?
Il est classé 18. Alors là, le celui de Perpignan, il est classé 22. Donc chaque fois, on change de point, on change de catégorie quand on a 100 points. 100 points de plus.
D'accord.
Donc un débutant à 500 points. Donc et notre meilleur joueur à 1800 points.
Comment c'est pour créditer les points ?
Alors en fait, c'est quand on gagne des matchs. Mais si on gagne un match contre quelqu'un qui a le même niveau que soi, on va gagner 2 ou 4 points.
Ouais.
Et dès lors qu'on va jouer quelqu'un qui est vraiment au-dessus, donc avec 4 classements d'écart, on peut gagner jusqu'à 40 points.
Donc le meilleur joueur à 1800 points, imaginons le 800e mondial, il a combien de points lui ?
Il doit être à 2200, quelque chose comme ça.
Oui, d'accord, il y a 400, 400 points d'écart.
400 points d'écart, oui.
Ok.
Donc ça commence à, ça commence à jouer, c'est super agréable à regarder, du moins. Les balles vont à une vitesse, et puis c'est plaisant à voir.
Et la fréquence des matchs, c'est à peu près tous les week-ends, une fois sur les 2 semaines ?
On joue tous les 15 jours.
Tous les 15 jours, oui.
Et après, on a le championnat individuel qui va attaquer ce week-end.
Voilà. D'accord.
Et ce week-end, pareil, on est super content au niveau du club de Mende parce qu'on a 2 Mendois qui sont qualifiés au niveau national. Donc première chose, ça nous est jamais arrivé. L'année dernière, on avait une jeune fille, Laura Marion, qui était sélectionnée au niveau national, qui avait réussi à se maintenir quasiment sur tous les matchs. Et là, on commence la saison avec 2 Mendois. dont un qui est au col et un qui est sur une nouvelle section qu'on a créée qui s'appelle le pré-col. Voilà, c'est pour les plus petits, on leur donne un niveau d'entraînement conséquent pour qu'ils puissent progresser. Et puis, voilà, c'est un petit peu l'antichambre de notre col.
D'accord, justement, on va dire un mot sur le col. Ça fait longtemps que vous êtes en partenariat
4 ans.
4 ans, d'accord, oui, ça commence à faire.
Commence à porter ses fruits peut-être aussi.
Oui, oui. Ben, sur les matchs de R1 qu'on avait l'année dernière, ben, on avait deux jeunes qui venaient du col. Donc Gaëtan Brugeron qui est encore au col et Arthur Dvorak qui lui était au col et qui est en train de passer ses formations.
Donc s'il est au col, ça veut dire qu'il est jeune là.
Oui, alors là il est en terminale.
Ouais.
Sachant qu'au niveau du col, on en a qui sont en 5e, 4e. Voilà, donc on arrive à... Ouais, parce que au tennis de table, plus on commence, du moins. C'est quand on est jeune qu'on a une forte progression. Donc voilà, oui. Si on arrive à les faire progresser tout de suite, c'est tout de suite bénéfique pour la suite.
Donc il y a des équipes de jeunes aussi
Oui, alors on a commencé par une équipe de jeunes en Détroit. Donc la seule équipe de Détroit, c'est une équipe de jeunes, donc moyenne d'âge 11 ans, ouais, qui joue contre des adultes. Et pour le moment, ils sont invaincus. Donc ils ont gagné lors de premier match 2-10. Donc voilà,
ils sont des adultes.
Oui, ouais, mais après voilà, c'est du loisir aussi, donc il faut relativiser les choses, mais ils se font plaisir.
Dans le sport, il y a pas de loisir.
Si. Et puis après, on a une équipe en D1 qui est constituée de 4 jeunes et qui est pour le moment première ex-aequo sur la poule.
C'est le club de monde qui a la plus haute division en Lozère ou
Non, il y a Marvejol qui est en pré-national.
Ah, et qui sont au-dessus de vous
Ils sont juste au-dessus de nous.
D'accord.
Voilà. Bon, après, c'est un petit peu des petites guerres de clochers, mais voilà.
C'est bien, ça fait des derbies après.
Tout à fait, oui. Mais l'année dernière, on avait fait un petit match de gala entre Marvejol et Mende pour on avait fait venir un peu tous les jeunes de Lozère pour montrer un peu ce que c'est que le haut niveau. Parce que bon. Chaque joueur joue à son niveau, mais c'est bien de voir un peu ce qui se passe quand on joue au-dessus.
Et avant que Laurent le demande, qui a gagné?
C'était Mende.
Ok, super. L'équipe réserve, elle, qui vise le maintien, se déplaçait ce week-end à Limoux.
Tout à fait.
Alors, et ça donnait quoi?
Alors, ils ont gagné 12-2. Avec, pareil, deux joueurs du col qui sont montés sur la R3 pour assurer le maintien. Donc, et notamment une de nos recrues, parce qu'on a recruté cette année deux jeunes de la Canourgue. Donc, Jean Rouget qui a joué en R3, qui a fait... 3 points. Et Florent Fage, qui lui, c'est le joueur qui a fait 2 points contre Huchot. Et voilà, le petit jeune qui a permis de.
Qui a joué aussi dans l'équipe réserve. On peut
non,
faire les deux.
Qui a joué sur l'équipe 1.
Ah, sur l'équipe
1. Florent, c'est celui qui a joué sur l'équipe 1. Et voilà. C'est le petit coup de poker qu'avait fait Lionel en faisant en sorte qu'il joue sur les 2 moins forts et sur les 3 moins forts et sur les 3, il en fait 2.
D'accord. Vous jouez où les matchs et on va venir
au chapitre.
Vous voir. Au chapitre
Oui.
D'accord.
Voilà.
Ok. Et c'est ouvert au public
Tout à fait.
C'est quoi vos horaires habituellement?
Alors, pour la régionale, ça se joue le dimanche après-midi. C'est de 2h30, en général vers 5h30, c'est fini. Et après, au niveau départemental, ça se joue le vendredi soir.
D'accord.
Ouais, parce qu'on...
Il n'y a pas d'équipe féminine chez vous?
Alors, on a réfléchi cette année pour en faire une. C'est un petit peu difficile.
C'est féministe, moi, tu le sais.
Non, on aimerait bien. Mais
je comprends pas,
quoi?
Non, mais c'est sûr, nous aussi on aimerait.
Ouais. Non, c'est vrai que voilà, c'est un souhait qu'on avait au niveau du bureau et il faut arriver à trouver des féminines, à les faire progresser pour après qu'elles puissent intégrer un championnat parce qu'on attaque tout de suite au niveau régional.
Ah oui, les féminines direct,
oui.
C'est
au niveau R1 et après Prénat.
Vous en avez beaucoup de féminines dans le club en licencié actuellement?
Alors,
c'est...
en licencié, alors chez les jeunes on a 4 ou 5.
Ouais.
Et après, chez les adultes, on a cette année créé une nouvelle section, c'est la section loisirs. Et là, on a pas mal de féminines, mais qui viennent juste pour s'amuser, en fait. On n'a aucun objectif de faire la compétition. C'est vraiment que du ludique, mais avec des exercices, voilà, des séances encadrées parce qu'on s'est aperçu que le loisir aimait quand même être encadré pour s'amuser.
Vous fournissez l'équipement, shorts, t-shirts, tout ça. Comment ça se passe chez vous?
Alors, en général, chacun vient avec sa propre tenue. On prête les raquettes en début de saison. Et puis après, en fonction du jeu de chacun, de toute façon, il vaut mieux que chaque personne s'équipe de sa propre raquette parce qu'il faut savoir que les plaques... ont énormément d'influence sur le jeu.
Bien sûr.
Il y a toujours deux couleurs, avec une pour attaquer, une pour défendre. Ça marche toujours comme ça ou pas?
Oui, alors après, une pour attaquer ou une pour défendre, c'est au choix de chacun. Bon, ouais. Il faut deux couleurs, rouge et noir, obligatoire. Et voilà, après, on peut attaquer avec le rouge, avec le noir, ça n'a pas d'importance.
Il y a une évolution dans le matériel, dans les balles, par exemple. On sait qu'au football, le ballon change chaque année, il est plus léger, etc. C'est pareil chez vous ?
Dans les balles, alors, il y a quelques années, elles ont augmenté. Elles faisaient 38 mm, elles sont passées à 40. Bon, ça, c'est pour la télé, hein, parce que quand on joue, ça n'a pas une grosse incidence. Okay. Et cette année, du moins depuis l'année dernière, on passe sur les balles plastiques. Donc, on arrête les balles en celluloïde. Et on met en place des balles plastiques, qui a théoriquement pour objectif de ralentir un peu le jeu, pour qu'au niveau télé, ça passe
plus lourdes. Elles sont plus lourdes, non ?
Non.
Non, c'est plus léger encore ?
Elles font le même poids.
Ah, ça... Alors, ça change quoi, alors ?
Elles sont moins rapides. Donc, ce qui fait qu'au niveau de la télé, ben, on voit mieux la balle passer.
C'est bizarre. Sinon, ça va une vitesse.
Alors, par contre, moi, j'ai une question, mais qui est vraiment naze. C'est par rapport à ce que tu as dit juste avant. Pourquoi est-ce qu'il faut une couleur noire et rouge obligatoire ? J'arrive pas à comprendre le...
C'est la règle. Parce que théoriquement, on peut avoir des plaques différentes, et c'est pour pouvoir différencier les plaques que peut avoir un joueur.
Et oui, parce qu'il y en a qui sont plus fines pour attaquer, d'autres plus lourdes pour ralentir la balle, donc tu t'en rappelles comme ça. Parce que sinon, voilà. Si tu tournes la raquette, tu sais plus où t'es.
Oui
mais
pas dans les matchs.
Enfin bon, d'accord, c'est une règle un peu bizarre, je trouve, mais enfin bon. Moi, je pensais que tu allais me dire, c'est pour pas qu'il y en ait un qui sorte une raquette fluo.
Non.
Fait un truc qui ressemble à rien. Quoi.
Non, on a le droit des excentricités, d'avoir deux couleurs.
Non, rouge et noir obligatoire.
C'est rouge et noir obligatoirement. Dommage ça.
Après, sur le loisir, on peut faire ce qu'on veut. Hein. On peut peindre sa raquette. Il n'y a pas de souci. On a même des tables. Il existe même des tables de couleurs fluo pour le loisir. Mais après, en compétition, non, on est obligé de respecter des codes couleurs.
Ok. Super. Une autre question, messieurs ? Oui, Aurélien.
Oui, moi, je voulais te demander, au niveau du fonctionnement du club, comment vous en sortez pour faire les déplacements au niveau régional, etc. Est-ce que vous avez des aides ? Comment ça se passe ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà nos deux entraîneurs, parce qu'on a un entraîneur qui intervient énormément et puis un autre qui intervient un petit peu moins, mais bon, on a quand même une masse salariale. Pour un petit club, parce qu'on n'est pas tout à fait 100 licenciés, on a 4 300 € de frais d'entraîneur. Donc 80% de notre budget passe dans le coût de l'entraîneur et dans le coût de nos licences. Ce qui fait qu'au final, sur les déplacements, on ne peut pas faire un soutien aux déplacements. Donc c'est un peu notre grand regret. On arrive à avoir des sponsors, mais voilà, on a besoin de toujours plus de fonctionnement. On est de plus en plus ambitieux sur ce que je disais, la section handisport, ça nous coûte un petit peu. On a créé une section baby ping, ce qui fait que dès 4 ans on peut jouer au ping pong. Ça, les gens le savent pas forcément, mais dès 4 ans on leur met à disposition Lionel pour tout ce qui est motricité, déplacement, etc. Donc on leur demande pas de jouer à la table, mais ça leur permet de s'amuser. Donc on a un budget d'autour de 20 000 € à l'année. Donc on essaye de faire au mieux, mais voilà. Notre souhait, ça serait d'arriver à aider, que ça soit au niveau national, quand on a nos jeunes qui sont au niveau national, de payer l'hôtel, de payer un restaurant. Pour le moment, on ne peut pas.
D'accord.
La commune intervient un petit peu dans le sponsoring ou pas ?
Enfin, on attend toujours le versement des subventions 2015.
Ah, voilà, c'est un appel.
C'est un appel, voilà.
C'est ça.
Ouais, donc bon. Après... un peu en dessous de nos espoirs. Tous les ans, on leur explique bien qu'on a un projet qui tient la route, parce que j'ai la chance d'avoir avec moi un bureau et des gens compétents sur les postes qu'ils ont pris. Donc c'est vrai qu'on est assez bien structuré. Et seul petit bémol, c'est on a des besoins de liquidité, en fait, pour pouvoir vraiment passer un cap, du moins une idée. Par exemple, une équipe de Pro B de Nîmes en féminine, leur budget, c'est 40 000 € pour leur équipe. Donc, c'est les déplacements, c'est les primes de match, c'est des choses comme ça. Donc, pour 40 000 €, on est une équipe en professionnel.
C'est le budget de l'équipe 3 de l'AFL en apéro.
Voilà.
Pour ça.
Hein, ouais, je suis désolé, j'ai lancé un sujet que j'aurais pas dû.
Et il est 1h30 déjà, hein.
Ouais,
déjà. Ça passe vite. C'est que
ça passe vite, ouais.
Tu poses des questions pour pas qu'on parle de Zlatan, c'est ça ?
De qui ?
Hein ? Non, on
qui
en parlera
est
pas.
Cet homme ?
T'inquiète pas.
C'est un pongiste.
Oui, c'est ça.
On peut parler de Barada qui a loupé son penalty, s'il faut.
Oui, on peut parler de ça aussi, ça c'est pas mal.
Et d'ailleurs, en parlant de pongiste, depuis Jean-Philippe Gatien, est-ce qu'il y a eu des médailles olympiques ?
Non.
C'était quelle année, 92 c'était
92,
c'était ça, à Barcelone.
Je suis arrêté
champion du monde
ça,
en 93. Ouais.
Ouais. Et puis là, il n'y avait pas une chinoise naturalisée française en féminine qui était très forte?
Si, mais...
Toujours sixième.
C'était Pi, non?
Non.
C'est pas ça, comment elle s'appelait?
Ying ou...
Li?
Li Ying, en tout cas. Ah, ouais. Mais... Ouais. Après, c'est... Ouais, mais... Non, les Chinois, ils les gardent chez eux.
Hein. Ben, oui, ils mais elle était 6e ou 7e joueuse mondiale, quelque chose comme ça, non? Ou 10e? Non,
oui, dans les 10e, mais après.
C'est pas mal.
Il fallait rien gagner de.
Oui, non, non, il faut savoir.
De donc depuis 92.
Alors par contre, au niveau, du moins, ce qu'il faut voir, c'est au niveau européen où on marche quand même super bien.
En Europe, bon, on a.
Au niveau mondial, c'est intouchable, mais après, il faut voir qu'au niveau, niveau européen, il y a eu les Jeux de Bakou. Les Jeux de Bakou, ça a été une super vitrine pour notre sport. Là, il y a eu les jeux, les championnats d'Europe qui viennent de se passer. Donc, par équipe, ils font 3e. Bon, au niveau individuel, voilà, il y a eu des contre-performances des deux meilleurs français au premier tour.
Derrière qui, 3e ? C'est qui les deux premières nations ?
Alors là, il y avait eu. Alors, il y a l'Allemagne qui est toujours bien placée.
Ah ouais, ils jouent au ping-pong, les Allemands.
Et
les campings, beaucoup ils jouent.
Ouais.
Puis il faut savoir qu'il y a une nouvelle nation qui est en train de monter, c'est le Portugal. Le Portugal est une nation très très forte au niveau du tennis de table, en fait, parce qu'ils ont beaucoup de Portugais qui jouent en Allemagne. Voilà. Et le championnat allemand, c'est le championnat référence.
Il y a une communauté importante à Mende, il faut en prendre à l'éveil mandois.
Tout à fait, oui. Mm-hmm. Ou alors, au niveau de l'IUPS, il y a quelques petits Asiatiques qui veulent venir jouer.
Ah, oui,
moi, je suis preneur.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Ah, mais peut-être,
Non, il y a quelques années, on avait réussi à en récupérer un. Et il était énorme.
Il était énorme.
C'était agréable à le voir jouer.
Et lui, il ne jouait pas là-bas en club, mais bon, vu qu'il en fait depuis qu'il a 2 ans, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Mais ça nous a fait plaisir de parler de votre club et de ce sport qu'on n'évoque pas souvent. On essaiera de suivre un peu les résultats pour les donner dans cette émission. Merci beaucoup. Bah, on va s'arrêter là. On ne va pas parler de sport nation parce que c'est déjà l'heure. Hein. On verra la semaine prochaine quand Patrick et Luc seront de retour. Ça ne sera pas gagné non plus, mais bon.
Oui,
on verra ça.
D'ici là, Marseille aura certainement gagné un match. Donc ça ira beaucoup mieux. Quoi.
Voilà. Lundi prochain, on pourra débattre sur France-Irlande qui se sera déroulé la veille en Coupe du Monde de rugby.
Voilà, je
les Irlandais qui ont galéré hier d'ailleurs. Hein. Je battent l'Italie.
16-9, ouais. Je compte
et puis les Anglais, alors là, c'est top.
Et ouais, on peut même pas parler des Anglais qui sont éliminés.
Le week-end était maussade, et puis jusqu'à ce que cette élimination des Anglais, là, ça, tout de suite, le soleil est revenu. Quoi.
Ouais, c'est ça. Mais on en parlera la semaine prochaine, on fera un point promis. Ok, merci à tous, merci d'être venus dans cette émission, et on vous retrouve bien sûr lundi prochain, même heure, midi et demi, 1h30, ciao.
Ciao, ciao,
au revoir.
C'est Leslie John au couloir numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du Tadji Apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme.
Quarante-huit FM. 48.